Bon réveil, il est 7h30. Sébastien Logeni pour le journal, bonjour.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, c'est la haute saison pour les expulsions locatives. Comme chaque été, les préfectures et les bailleurs profitent des vacances scolaires pour appliquer les décisions de justice. On entendra la colère des associations. La mesure était passée inaperçue. Il sera bientôt possible de retirer le permis aux conducteurs qui conduisent avec un portable et qui commettent en même temps une autre infraction grave. Explication à suivre. Dans ce journal également, l'adoption aujourd'hui de la loi de lutte contre la haine sur Internet, une loi qui manquerait de moyens selon les juristes. Le procès d'une princesse saoudienne accusée d'avoir fait frapper un plombier par son garde du corps et une toile de Rembrandt passée au laser sous les yeux des visiteurs ou comment continuer à exposer des œuvres en cours de restauration.
Deux invités dans 20 minutes pour nous parler de la Convention citoyenne pour la transition écologique. Ces deux coprésidents, Laurence Tubiana et Thierry Pech. Quand les vacances d'été riment avec expulsés.
On l'oublie souvent, mais c'est en juillet-août que les expulsions locatives s'accélèrent, car les enfants ne vont pas à l'école et ce serait donc moins compliqué de mettre des familles à la rue. Mais depuis quelques semaines, plusieurs personnes se sont retrouvées dehors sans aucune solution de relogement provisoire. En cause, la saturation du numéro d'urgence, le 115, mais pas seulement. Les associations dénoncent également les nouvelles consignes de la préfecture de police de Paris, des consignes plus rigides qu'auparavant, Claire Chaudière.
Avec l'arrivée des grandes vacances scolaires et l'idée que la mobilité des enfants serait moins pénalisante, les familles à la rue sont chaque année beaucoup trop nombreuses, expliquent les associations. Mais jusqu'ici, les ménages reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable bénéficiaient d'une garantie d'hébergement provisoire à l'hôtel. Fini, s'indigne Violette Volson du comité Action Logement Paris.
Ça s'était jamais vu. Là, la semaine dernière, en pleine canicule, une maman seule avec sa fille de 7 ans, sans solution. C'est des gens à qui ont dit « Vous êtes prioritaire d'allo, l'État a l'obligation de vous reloger. » Et c'est compliqué pour eux de comprendre que parallèlement à ça, l'État autorise leur expulsion sans leur chercher de solution.
Pointé du doigt, la préfecture de police de Paris et ses nouvelles directives, au mépris total des engagements du gouvernement et de son plan Le Logement d'abord, martèle Éric Constantin de la Fondation Abbé Pierre.
Mettre dehors des gens qu'on devrait reloger, ça sert à quoi? Ça coûte de l'argent, c'est des drames humains. On a aujourd'hui un père et sa fille de 17 ans qui a révisé son bac dans un parc parce qu'ils ont été expulsés. Alors qu'on est dans une logique où on veut prévenir les expulsions, on fait totalement le contraire.
Des expulsions qui ont augmenté de 46% en une décennie au niveau national, selon les chiffres du ministère de la Justice.
Claire Chaudière, contactée par France Inter, la préfecture de police de Paris n'a pas donné suite à nos demandes d'informations.
Téléphoner au volant pourrait bientôt vous coûter votre permis de conduire.
C'est une mesure adoptée dans la loi mobilité, mais qui au moment du vote n'avait pas fait de vague. Sauf qu'à la faveur de l'été, la sécurité routière en profite pour faire quelques rappels à la loi justement. Et la voici donc, cette nouvelle arme anti-portable du gouvernement. Pas seulement une amende, mais un retrait pur et simple du permis de conduire quand on cumule les infractions au code de la route. Explication de Thibault Lefèvre.
Vous perdrez désormais votre permis si vous téléphonez et qu'au même moment vous commettez n'importe quelle infraction, que ce soit par exemple un excès de vitesse, un dépassement par la droite ou un refus de priorité, alors que jusque-là, les amendes et les retraits de points s'additionnaient. Plus de sévérité donc, car le phénomène inquiète la sécurité routière. Un accident sur 6 a aujourd'hui pour cause l'inattention. Plus du tiers des conducteurs regardent leur portable au volant quand il émet un son. Ils sont deux fois plus nombreux en dessous de 35 ans. Le gouvernement veut donc agir vite et les sanctions pourraient être appliquées avant la fin de l'année. Une précision, l'usage seul du téléphone au volant sans commettre une autre infraction reste puni de 135 € d'amende et d'un retrait de 3 points sur le permis.
Notons que près de 60% des Français utilisent leur portable en conduisant. Transport encore avec cette expérience lancée par la SNCF et les buralistes dans 5 régions françaises. À partir de la fin juillet, les bureaux de tabac de Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Normandie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur vont pouvoir vendre des billets de train TER, TGV, payables en espèces. Mais pas de procédure d'échange ou de remboursement possible. Là, il faudra toujours passer par un guichet. On y reviendra en ouverture du journal de 8h. La fin de l'incertitude pour les bacheliers 2019. Désormais, toutes les copies manquantes ont été rapportées et saisies par les professeurs grévistes, selon le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, deuxième jour des oraux de rattrapage. Normalement, ceux qui avaient été convoqués pour ces oraux, mais qui entre-temps ont eu leur bac grâce à leur note définitive, devraient être informés avant 10h ce matin, afin de ne pas avoir à se rendre à leur convocation.
7h35, Sébastien Logeny, les députés doivent adopter aujourd'hui le projet de loi de lutte contre la haine sur Internet.
Principale mesure de cette loi, plateformes et moteurs de recherche auront l'obligation de retirer les contenus manifestement illicites dans les 24 heures sous peine d'amende. Un texte controversé, l'opposition y voit un risque de censure, mais c'est aussi l'efficacité du texte qui est critiquée, notamment Rémi Brancato, les moyens accordés aux magistrats et aux policiers spécialisés dans la lutte contre cette haine en ligne.
Les propos discriminatoires, haineux, le harcèlement ou l'apologie du terrorisme, la liste s'est allongée pendant le débat parlementaire. La future loi donne 24 heures aux réseaux sociaux et moteurs de recherche pour supprimer ces contenus s'ils sont signalés. Sinon, c'est une amende jusqu'à plus d'1 million d'euros. Le réseau Twitter assure que c'est une priorité. Facebook indique avoir déjà augmenté la détection des discours de haine. 65% sont supprimés après repérage directement par l'entreprise, contre 24% seulement l'an passé. Mais c'est plus compliqué pour les contenus dits gris, litigieux, pour lesquels il faut une modération plus fine. Alors justement, le gouvernement a fait adopter un amendement pour créer un observatoire de la haine en ligne. Il y aura aussi un parquet spécialisé avec des magistrats dédiés. Mais pour l'avocat Éric Morin, qui a défendu plusieurs victimes de cyberharcèlement, s'il n'y a pas de moyens, cela ne suffira pas.
J'étais pas plus tard que la semaine dernière dans un service de police spécialisé à Paris. Le groupe de policiers qui s'occupait de ce cyberharcèlement en meute est composé de 6 policiers. À quel moment on pense que la masse de ce déferlement de haine va pouvoir être traitée par une poignée de policiers et de gendarmes? Il faut des moyens.
Et les moyens judiciaires et d'enquête, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, les a promis lors du débat à l'Assemblée.
Rémi Brancato, comment lutter contre la haine en ligne? Ce sera le sujet justement du Téléphone Sonne ce soir à 19h20 avec Claire Servageant. L'heure du jugement pour Bernard Tapie. C'est aujourd'hui que le tribunal correctionnel de Paris doit dire si l'ancien ministre a escroqué l'État. Une peine de 5 ans ferme a été requise.
Une autre audience aujourd'hui, Sébastien, où l'on croise une princesse saoudienne, un plombier français et un champion de boxe thaï.
Oui, que s'est-il passé le 26 septembre 2016 avenue Foch, entre la sœur du prince héritier saoudien Usa bint Salman, un artisan venu faire des repérages et un bodyguard aux méthodes plutôt musclées? La princesse accuse l'artisan d'avoir voulu la photographier alors que son image est un secret d'État à Riyad. La princesse qui aurait donc intimé l'ordre à son homme de main de rouer de coups le plombier. Le garde du corps sera là aujourd'hui au procès, le plombier aussi, mais pas la princesse, dont la garde à vue avait été levée au bout d'une heure seulement pendant l'enquête, du jamais vu dans une instruction, Emmanuel Leclerc.
Les policiers avaient littéralement halluciné ce jour-là de cette remise en liberté express de la princesse, qui était quand même soupçonnée d'avoir été derrière le passage à tabac à Paris d'un ouvrier par son propre garde du corps. Usa bint Salman avait pris le premier avion pour Riyad et ne sera pas là cet après-midi. On pourrait donc ne jamais savoir si l'artisan a vraiment voulu prendre des photos de l'appartement pour bien remettre les meubles après son chantier à 21 000 euros ou s'il a tenté de jouer les paparazzi. Il sera en revanche beaucoup question de la réalité de la violence des coups reçus par l'artisan, de mains ligotées, d'une arme sur la tempe, d'une séquestration d'un quart d'heure et enfin d'un baiser forcé des pieds de la princesse pour s'excuser. Dans cette affaire, les témoins, tous en lien avec la monarchie saoudienne, n'ont rien vu de répréhensible. Il y a enfin celui qui a avoué avoir détruit le téléphone portable parce qu'il y avait justement 2 vidéos de la princesse, mais il n'a finalement pas été poursuivi. Ça fait beaucoup d'absents et de preuves envolées.
Emmanuel Leclerc.
Direction Hong Kong, où le bras de fer entre le pouvoir et la rue continue.
On a cru ce matin que les autorités avaient définitivement enterré le projet de loi à l'origine des manifestations monstres des dernières semaines. Ce texte est mort, selon la chef du gouvernement pro-chinois, qui n'a toutefois pas annoncé le retrait pur et simple de la loi. En face, les contestataires promettent donc de nouveaux rassemblements. À Hong Kong, les précisions sémantiques de Florence de Changy.
Le projet de loi est mort, a déclaré à la presse Carilla mardi à 10h du matin avant de rejoindre sa réunion hebdomadaire du conseil exécutif, la plus haute instance du gouvernement. Carilla m'a reconnu que la gestion de la crise par son gouvernement avait été un échec total. Elle a estimé que la raison de cet échec était que son gouvernement n'avait pas fait du bon travail. Cette petite concession sémantique a comme attendu manqué de satisfaire les opposants à ce projet de loi qui demande son abandon ou son retrait total. 2 heures après la déclaration de Carrie Lam, le Front civil des droits de l'homme, organisateur des plus grandes marches de ces dernières semaines, ont fait remarquer que le mot « mort » n'existait pas dans le langage juridique, demandant au gouvernement de suivre le règlement. Ils ont rappelé leurs 5 revendications qui restent les mêmes, notamment une commission d'enquête indépendante dans les violences policières du 12 juin et la démission de la chef de l'exécutif. Hong Kong, Florence Dechangy, France Inter.
Et voilà une autre décision qui devrait provoquer la colère de Pékin. Les États-Unis ont approuvé ce matin une importante vente d'armes à Taïwan. 108 chars, 250 lance-missiles pour près de 2 milliards d'euros.
Et l'on termine avec un chef-d'œuvre de Rembrandt passé au rayon X.
La ronde de nuit, 3,80 m sur 4,50 m, achevée en 1642. Une toile qui nécessiterait bien un petit ravalement, 375 ans après les premiers coups de pinceau du maître. Mais pour ne pas priver les visiteurs de ce bijou, le célèbre Rijksmuseum d'Amsterdam a décidé de laisser travailler les chercheurs sous les yeux du public. Le reportage de Pierre Benazé.
Enfermés dans une cage vitrée de 7 mètres sur 7, les chercheurs du Rijksmuseum s'activent autour d'un imposant scanner qui se déplace devant la ronde de nuit. C'est la première phase de la recherche, la fluorescence des rayons X. Les visiteurs doivent parfois se hausser sur la pointe des pieds pour voir la célèbre toile de Rembrandt, comme Elsa, une Parisienne pour qui c'est la première visite.
Ça donne un côté très contemporain à l'œuvre. C'est intéressant de voir tout ce qui se passe autour. C'est dans une cage, on dirait presque une installation d'art contemporain. On pourrait se dire qu'il y a une performance là. Ça ne me gâche pas la visite et la découverte de l'œuvre.
Une vingtaine de scientifiques vont se succéder pour inspecter la ronde de nuit millimètre par millimètre, comme Victor Gonzalez, docteur en chimie. Il va se pencher avec passion sur les pigments utilisés par Rembrandt il y a près de 400 ans.
L'enjeu ici, c'est de retrouver éventuellement la couleur originale des maîtres de Rembrandt. Est-ce qu'ils ont changé de couleur? Est-ce qu'ils sont devenus plus transparents? Mais peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'autres surprises. Est-ce qu'on va découvrir d'autres matériaux qui sont uniques à la ronde de nuit? On sait que c'est une commande qui a été très importante pour Rembrandt. Peut-être qu'il a expérimenté en quelque sorte et qu'on va trouver des nouveaux indices pour des nouvelles couleurs de Rembrandt.
Le musée espère pouvoir mener ensuite une restauration qui fera ressembler la ronde de nuit à son apparence de 1642. Pierre Benazet, France Inter, Amsterdam.
La ronde de nuit et son scanner, c'est à voir au Rijksmuseum d'Amsterdam donc.
Et c'était le journal de Sébastien Legénie sur France Inter.